Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Vieillir est-il inéluctable? Pas pour tout le monde, semble-t-il. Sur Terre, il existe des organismes vivants qui ne vieillissent pas. Qu'est-ce qui les différencie de nous? Que savent les chercheurs des mécanismes du vieillissement? Pourrait-on les contourner? Au cours du dernier siècle, l'espérance de vie à la naissance est allongée de 30 ans. Mais cela peut-il continuer indéfiniment? On s'intéresse aux recherches sur le vieillissement aujourd'hui en compagnie d'une généticienne, Florence Solari. Bonjour.
Bonjour.
Et d'un biologiste du développement en duplex depuis les studios de France Bleu Héros à Montpellier, Jean-Marc Lemaître. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous raconter vos recherches et les dernières découvertes concernant le vieillissement. Nous verrons quelle médecine anti-âge elle laisse entrevoir pour le futur. Et les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Pas de Une de la Science aujourd'hui, comme toute la semaine, puisque l'émission sera un peu plus courte pour laisser la place vers 14h40 au message officiel de la campagne présidentielle. Cette Tête au Carré est réalisée par Marie-Hélène Fauquet. Elle a été préparée par Chantal Lemontagnier.
Maintenant, un avertissement. Prenez grand soin de vous. Vous et votre corps allez être ensemble encore longtemps. Siempre viva. Vivez éternellement.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Florence Solari, chercheuse INSERM, CNRS à l'université Lyon 1. Vous venez de publier aux éditions Le Pommier, l'homme qui vivra 200 ans est-il déjà né? Ça vous semble envisageable que les humains atteignent un jour une telle longévité?
Alors, je vais pas spoiler mon petit livre en répondant directement à votre question, mais je peux quand même dire que à la fin de l'année dernière, un article important est paru dans la revue prestigieuse Nature qui reprenait les études épidémiologiques sur l'âge maximum observé chez l'homme, et on observe un plateau en fait autour des années 90. Et ces années-là correspondent en fait au record de longévité tenu par Jeanne Calment en 1997. Âge record, qui atteint un âge record de 122 ans. Donc, a priori, on ne devrait pas dépasser cet âge-là.
D'accord. Donc, voilà, faut se méfier de certaines promesses que l'on peut lire parfois, même sous la plume de certains scientifiques ou prétendus comme tels.
Tout à fait.
Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie à Montpellier. Votre avis sur l'idée que peut-être à 120 ans, on plafonne et que les humains ne vivront jamais tellement plus vieux?
Alors, effectivement, il y a eu cette revue récente qui indique qu'il y aurait une limite à la longévité, mais une limite sans intervention de l'homme. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreux développements qui se mettent en place et peut-être que l'homme, en intervenant, va pouvoir dépasser ses limites. En tout cas, aussi bien en ce qui concerne les dernières recherches sur la sénescence, sur la reprogrammation et sur les cellules souches, on peut imaginer que peut-être, en intervenant, on pourra dépasser cette limite. Mais dans un premier temps, quand même, l'enjeu, c'est d'essayer d'arriver à cet âge pour tout le monde, mais en bonne santé.
Oui, évidemment. En tout cas, on entend déjà qu'il y a un petit peu une petite porte ouverte vers peut-être une longévité qui irait au-delà des 120 ans, d'après vous. Alors, tous les êtres vivants ne sont pas égaux devant le temps qui passe. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Exemple.
Le rat taupe nu est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, et qui vit 30 ans en bonne santé. D'habitude, une souris vit 2 à 3 ans. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Jamais de cancer, équivalent d'Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Pas de vieillissement. Autrement dit, quand on lui implante des tumeurs cancéreuses, même violentes, il la rejette. Il résiste aux cancérigènes. Donc cette petite souris tient la clé de ce qui nous fera tous mourir un jour ou l'autre, cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Si on trouve cette clé, on fera un bond de géant pour la santé.
Un vétérinaire de Maison Alfort émerveillé devant la longévité du rat taupe nu, ce qui semblerait une prouesse inatteignable pour nous, êtres humains, semble tout ce qu'il y a de plus normal pour ce rat taupe nu. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que nous, Florence Serroussi?
Alors, effectivement, alors, le rat taupe nu est assez extraordinaire parce que si on considère les rats classiques de laboratoire, ils ne vivent pas plus que 4 ans. Ouais. Or, le rat taupe nu, qui a à peu près la même corpulence, vit 30 ans. Et je pense qu'on peut discerner là au moins deux composantes. La composante génétique, c'est probablement dû à son patrimoine génétique. D'ailleurs, certains gènes ont été identifiés qui permettent d'expliquer au moins en partie pourquoi il ne développe pas de cancer, mais aussi son environnement. La deuxième composante importante, c'est son environnement, fort probablement qui est impliqué dans cette longévité extrême, dans la mesure où il vit déjà sous terre et qu'il n'est pas sous influence des rayonnements solaires et d'un stress éventuellement lié à un environnement hors du sol.
Il y a vraiment une grande diversité, ne serait-ce qu'au sein d'une même famille, hein, chez les mammifères, vous le dites dans votre livre. Alors il y a des mammifères qui font 2 grammes, d'autres qui font 150 tonnes, hein, si on va chercher chez les baleines, et on observe des espérances de vie qui varient du simple au 100 fois plus. Alors qu'est-ce qui explique cette différence de longévité dans le règne animal
Tout
et
à fait.
Chez les mammifères?
Alors les premières observations laissaient penser que plus on est gros, plus on vit longtemps. Or, comme on le voit là avec l'exemple justement du rat-taupe, à poids égal, à corpulence égale, on peut avoir des durées de vie très différentes. Ce qui différencie essentiellement les espèces, c'est leur patrimoine génétique. Et clairement, les recherches ont montré que les gènes jouent un rôle important dans le déterminisme de la longévité.
Donc ça n'est pas vraiment une question de corpulence uniquement, en tout cas de taille d'animal.
A priori, non, puisqu'on a plein de contre-exemples qui remettent en question cette corrélation-là, en fait.
Et est-ce qu'il existe des êtres vivants qui ne vieillissent pas? Pas du tout.
Effectivement. Alors, tout dépend ce qu'on prend comme définition du vieillissement. Déjà, ça, c'est une question qui est un véritable défi de définir le vieillissement. Mais un exemple très bien connu est le cas de l'hydre, hein, qui est un petit cnidaire, en fait, de l'ordre des éponges, des coraux.
Donc, c'est un animal aquatique. Ça ressemble un petit peu à une anémone de mer, mais qui se balade, qui n'est pas fixe, quoi.
Tout à fait. Qui se renouvelle, elle, en permanence, si on dit qu'elle est immortelle.
Ouais, une régénération.
C'est un peu un sac de cellules souches qui se renouvelle perpétuellement. Mais je pense que Jean-Marc pourrait peut-être en parler encore mieux que moi.
Jean-Marc Lemaître, pour le biologiste du développement que vous êtes, l'hydre et ses capacités de régénérescence infinie, c'est encore une énigme ou c'est une source d'inspiration?
Oui, c'est malgré tout encore une énigme, parce que c'est quand même un animal qui est assez primitif dans l'évolution. Et même si on a pu identifier que chez cet animal, il y avait une capacité à reformer des cellules souches qui étaient plutôt ce qu'on peut appeler des cellules pluripotentes, c'est-à-dire qui sont capables de faire un peu tous les types cellulaires et tous les tissus et qui vont se mobiliser en fonction de l'environnement, du stress, de la pauvreté du milieu, etc. Malgré tout, les gènes qui sont réellement impliqués dans ces mécanismes ne sont pas encore clairement identifiés. Il y en a un qui a quelque chose à voir, le gène FOXO, qui a quelque chose à voir avec éventuellement ce qu'on peut avoir dans l'espèce humaine au niveau d'une longévité, vous savez, les familles de forte longévité. Donc, il y a peut-être quelque chose, un gène qui serait un gène de résistance un peu plus au stress, mais vraiment les mécanismes pour l'instant ne sont pas identifiés. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'effectivement cet animal a une capacité exceptionnelle de régénération qu'on a perdu sûrement au cours de l'évolution, puisqu'on sait que des petits mammifères, très tôt dans la vie, peuvent encore régénérer. Hein. C'est le cas de la souris, c'est le cas de même chez l'homme, un petit, les quelques jours, la semaine après la naissance, on peut encore régénérer une phalange, c'est-à-dire refaire de l'os, refaire de... Mais tout ça a été perdu au cours de l'évolution. Ouais. Mais c'est vrai que de pouvoir régénérer complètement un membre défaillant, par exemple, ou... certains tissus qui sont altérés avec le vieillissement, eh bien, ça permettrait de gagner peut-être quelques années de vie en bonne santé, en tout cas.
Florence Solari, vous travaillez sur un petit ver qui s'appelle le Caenorhabditis elegans, et vous arrivez à lui donner une longévité bien plus importante. Comment vous faites pour leur prolonger comme ça la vie?
Alors ce petit ver, d'abord le présenter, donc c'est un petit ver de 1 mm de long, qui est transparent, qu'on trouve communément dans le sol, hein, dans nos jardins. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas si différent de ce petit ver, puisque 40% de ces gènes sont retrouvés chez les mammifères et chez l'homme. Et donc il a joué, bon il est très utilisé en laboratoire parce qu'il est facile à manipuler, on peut le congeler, mais surtout il a une durée de vie de seulement 15 jours.
Ah oui.
ce qui permet de faire énormément d'expériences, d'étudier l'impact de l'altération de différents gènes et comme ça d'atteindre les mécanismes responsables du vieillissement ou qui participent au moins au vieillissement. Et historiquement, il a joué un rôle pionnier dans les études de longévité parce que c'est chez C. elegans qu'on a montré pour la première fois qu'on pouvait moduler le vieillissement par une approche en modulant un gène, en modifiant un gène.
Donc là, vous avez modifié un gène et vous avez réussi à allonger de combien de temps sa durée de vie ?
Ces premiers travaux n'ont pas été réalisés par notre équipe, mais par Cynthia Kenyon en Californie. Elle a montré qu'en modifiant un seul gène, un gène qui s'appelle DAV2, on pouvait doubler la durée de vie du ver, ce qui veut dire que, par exemple, chez l'homme, en modifiant une protéine sur 100 000 environ, on atteindrait 200 ans. Donc c'était énorme. Mais ce qui était encore plus énorme, c'est que ça, c'était à la fin des années 80, au début des années 90. Ce qui était encore plus extraordinaire, c'est de montrer que cet effet, ce gène, existe aussi chez la souris. Et si on manipule ce gène de la même façon chez la souris, on peut aussi étendre la durée de vie de la souris. Ouais. Et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, ce gène, il est retrouvé aussi, enfin, une des composantes qui agit avec ce gène est retrouvée dans les familles de centenaires. Ouais. C'est un des gènes qui permettrait éventuellement d'expliquer la longévité extrême de certaines familles de centenaires.
Évidemment, aujourd'hui, aucune expérience sur l'homme n'a été faite pour essayer d'aller transformer ce gène pour augmenter artificiellement la longévité.
Oui, sur le plan éthique, ça pose question. Quand même.
Ça n'a jamais été fait. S'intéresse au vieillissement dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Entretenir ces muscles, parce que si vous ne les entretenez pas, ils deviennent feignants aussi. À 105 ans, il ne faut pas faire l'idiot.
I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo.
C'était Charlie Winston, Like a Hobo, sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
On dit Cilento, lento, cela veut dire lent. Ici, tout va lentement, même notre façon de parler. Nous sommes très très lents. Jusqu'à quand voulez-vous travailler?
Jusqu'à 100 ans. Ça me relaxe. Ma sœur a 98 ans, mon frère a 100 ans. Nous sommes tous vieux.
On ne mange que des chaussettes.
Du poisson, notre huile d'olive et les légumes du jardin.
Autrefois, on faisait tout nous-mêmes. Le pain, la viande. La viande, à l'époque, on tuait le bœuf une seule fois par an. Alors de la viande, on en mange encore très peu. On vivait misérablement avec nos légumes et ça nous suffisait.
Nous étions à Acaroli, petit village de pêcheurs en Italie, au sud de Naples, où on semble bien mieux vieillir qu'ailleurs. 81 centenaires pour 700 habitants. Le vieillissement et la longévité au cœur des discussions de la Tête au Carré, en compagnie de Florence Solari, chercheur INSERM CNRS, auteur du livre intitulé « L'homme qui vivra 200 ans est-il déjà né ?» et Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie à Montpellier. C'est quoi, Florence Solari, le secret de ces centenaires d'Italie? Alors, dans votre livre, vous vous intéressez aux centenaires au Japon, sur l'île d'Okinawa, mais c'est un peu le même genre d'histoire. On a une population qui, tout d'un coup, semble épargnée par certaines maladies, pathologies cardiaques, moins de cataractes, moins de fractures osseuses. Qu'est-ce qui protège ces populations?
Alors, cette question a été abordée en étudiant différentes populations dans différentes régions du monde où on retrouve plus de centenaires que dans la moyenne. Donc, notamment sur cette petite île japonaise que vous mentionniez, Okinawa, mais aussi en Sardaigne, donc en Italie toujours, ouais. Et dans une région Loma, en Californie. Et donc, les chercheurs ont essayé d'identifier potentiellement les dénominateurs communs de cette longévité extrême. Et ils ont identifié 5 facteurs, il en est ressorti 5 facteurs de ces études comparatives. Le premier facteur, c'est l'absence de consommation de tabac. Le deuxième, c'est un exercice physique régulier. Le troisième facteur, c'est une nourriture équilibrée, pas trop riche, comme elle le mentionnait dans le mm-hmm. reportage, pas trop riche en graisse ou en sucre. Et les deux autres facteurs sont des facteurs, le lien familial. Être isolé, c'est pas bon pour le bien vieillir, donc ouais. Entretenir des liens familiaux ténus, et un engagement social. Ouais. Donc il n'y a pas seulement la nourriture, la biologie, il y a aussi les aspects...
Ce que je note, c'est que vous signalez des facteurs extérieurs, finalement. Vous dites très peu, c'est la génétique de ces personnes, c'est intrinsèquement, elles ont ça en elles, en fait, c'est leur contexte, c'est leur environnement qui fait qu'elles vivent longtemps.
Tout à fait, l'environnement joue un rôle primordial, et ça a été montré notamment dans les études sur les vrais pères de jumeaux, ouais. Hein, donc qui partagent le même patrimoine génétique. En fait, il a été montré qu'ils pouvaient avoir des longévités très différentes, et on évalue à peu près la part de la génétique à seulement 30% dans ce cas-là, dans le déterminisme de la longévité, et donc 70% relèverait plus de l'environnement, ouais. Du mode de vie et tout un tas de facteurs qu'on peut effectivement moduler. Ouais. Donc tous les espoirs sont permis.
Oui, donc notre longévité et le temps que l'on vivra en bonne santé, ça dépend essentiellement de nous. C'est le message que vous
donnez.
En grande partie. Jean-Marc Lemaître, quand nous vieillissons, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules de notre corps? Changeons d'échelle, comment les cellules de notre corps vieillissent-elles?
En effet, si nous vieillissons, c'est que nos cellules vieillissent avant tout. Et il y a plusieurs mécanismes qui ont été identifiés qui reflètent le vieillissement de nos cellules. Une cellule d'un individu adulte a un certain nombre de divisions qui lui sont comptées. Si ça n'est pas une cellule souche, si c'est une cellule différenciée, par exemple, elle va avoir, en gros, hein, une cellule de la peau, un fibroblaste de la peau, 70 divisions au cours de sa vie possible. Mmh. Et ensuite, la cellule rentre en sénescence, elle s'arrête de se diviser, et puis elle rentre dans un nouveau programme, en fait, et ce programme, il est plutôt délétère pour l'environnement tissulaire, puisqu'il va se mettre cette cellule va se mettre à sécréter des facteurs dans l'environnement qui sont plutôt désorganisants pour le tissu, qui sont inflammatoires, et on sait que le vieillissement, c'est en grande partie de l'inflammation dans les tissus au départ. Et donc, le fait que nos cellules puissent rentrer en sénescence en ayant épuisé leur capacité de prolifération, ou bien lorsqu'elles sont soumises à des stress un peu trop violents qui n'arrivent pas, que la cellule n'arrive pas à maîtriser. Ça peut être de l'oxydation, ça peut être des endommagements à son, au niveau de son génome, fait que la cellule, finalement, si elle reste là dans le tissu sénescente, eh bien elle va être délétère pour l'environnement et elle va faire vieillir nos tissus.
Mmh. Alors, Jean-Marc,
nos cellules souches, elles aussi peuvent vieillir. Hein.
Oui.
Donc il y a les cellules différenciées, mais aussi nos cellules souches. Et là, quand elles vieillissent, elles ne sont plus capables réellement de régénérer nos tissus. Donc il y a vraiment deux composantes importantes au niveau du vieillissement tissulaire, la sénescence de nos cellules et puis le vieillissement de nos cellules souches.
Alors, les cellules sénescentes dont vous parliez, en disant elles n'arrivent plus à se multiplier et puis elles meurent petit à petit, sauf que vous êtes parvenu à prendre des cellules à un âge avancé, vous êtes même allé les chercher chez des centenaires, hein, c'est dire si ces cellules avaient vécu, et vous avez réussi à les rajeunir, à les faire revenir à l'état de cellules souches embryonnaires. Expliquez-nous ça.
Oui, en fait, toute l'histoire a commencé avec la découverte de Monsieur Yamanaka au Japon, qui a pu montrer que, pour la première fois, que dans la boîte de culture au laboratoire, il y avait une possibilité de partir d'une cellule de la peau, d'un individu jeune ou adulte, et de pouvoir, à l'aide de quatre facteurs géniques, convertir cette cellule, la reprogrammer et la convertir vers une cellule de type souche embryonnaire, c'est-à-dire une cellule qui est capable de faire tout le corps de l'embryon, et simplement donc avec quatre facteurs. Ce que ce laboratoire avait pu montrer, il l'avait fait sur des cellules adultes, mais il ne s'était pas intéressé au vieillissement de nos cellules.
Quand vous dites quatre facteurs, c'est quatre petits ingrédients qu'on ajoute, seulement c'est quatre petits ingrédients, et la cellule remonte le temps.
C'est ça. Elle fait presque, on peut presque dire qu'elle remonte le temps, qu'elle fait marche arrière et qu'elle réacquiert en fait des capacités qu'elle avait au niveau de l'embryon de pouvoir se différencier dans n'importe quel type cellulaire, mais aussi d'une façon juvénile. Donc l'idée a un peu émergé au niveau du laboratoire en disant mais si on essayait de reprogrammer des cellules âgées, voire des cellules de centenaires, puisque c'est difficile de trouver des cellules plus âgées, et puis des cellules sénescentes, puisque c'est deux composantes du vieillissement. Et malheureusement, la stratégie de Monsieur Yamanaka avec ses quatre facteurs de départ, eh bien, n'avait pas fonctionné sur nos cellules sénescentes. La littérature a abondé après dans ce sens, en démontrant qu'effectivement, la sénescence c'était une barrière. Et donc, on a, je dirais, comme tout chercheur, bidouillé un petit peu. Ouais. On a essayé de trouver des nouveaux gènes qui pouvaient complémenter. Etc. Et on est arrivé à un cocktail, nous, de six facteurs géniques qui permettaient de reprogrammer ces cellules sénescentes, en faire tout d'abord des cellules souches, donc pluripotentes, capables de refaire n'importe quel type cellulaire. Mais au passage, on a vu qu'elles avaient effacé les marques du vieillissement cellulaire. Ouais. Et lorsqu'on les a redifférenciées à nouveau en cellules de la peau, eh bien, on a vu que là, on avait vraiment des cellules rajeunies au niveau de leur physiologie, de leur capacité à proliférer. En fait, on leur a donné une seconde vie.
Alors, une précision quand même, Jean-Marc Lemaître, c'est ces expériences se font dans des tubes à essai, elles se font in vitro, c'est-à-dire que vous ne rajeunissez pas les cellules sur une personne, vous ne rajeunissez pas directement ses propres cellules sur son corps.
Non, effectivement, pour l'instant, c'est in vitro, mais il y a eu des développements récents et nous travaillons sur ce domaine-là aussi au laboratoire qui vise à essayer de déclencher un processus proche de cette reprogrammation directement in vivo, c'est-à-dire chez l'animal. Ce qui a été montré, c'est qu'avec ces fameux quatre facteurs de Yamanaka, lorsqu'on a une souris qui peut les déclencher de façon inductible avec une petite molécule, par exemple, qu'on donne à manger à la souris, eh bien, elle est capable d'augmenter sa longévité de 30%, effaçant régulièrement les marques de vieillissement de ces cellules.
Oui, alors ça laisse évidemment entrevoir des médecines anti-âge pour demain, des thérapies. Je vois Florence et aussi qui dodeline. Alors on va parler de tout ça. Dans un instant, on va s'intéresser aux promesses d'immortalité que certains font et plus généralement aux médecines anti-âge de demain. Et bien sûr, nos invités répondront aux questions que vous leur avez adressées sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr.
Elles sont venues descendu des hauts plateaux, vers des châteaux en Espagne et des promesses d'eau. Épuisé de poussière, piétinant le destin, quelques filles et leurs mères ont levé haut le poing. Belle et solidaire, sans jamais reculer. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui danse. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui va. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui donne. Dansez, dansez, maman-là, une envie de vivre. Ça se calme pendant l'hiver, ça recommence en été, et toutes nos paroles en l'air sont bien vite oubliées. Rester là sans rien faire, c'est bon pour l'éternité. Cette vie j'en fais mon affaire, je ne pense qu'à l'aimer. Comme on aime un amour sans jamais s'arrêter. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui danse. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui va. Dansez, dansez, maman-là, c'est la vie qui donne. Dansez, dansez, maman-là, une envie de vivre bien au-dessus de moi. Que le monde changera.
Ces moments-là, Véronique Sanson dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
En compagnie de la généticienne Florence Solari, qui signe L'homme qui vivra 200 ans est-il déjà né aux éditions Le Pommier, et du biologiste du développement Jean-Marc Lemaître. Alors des questions des auditeurs sont arrivées à votre intention. Brahim nous dit sur Twitter, la question a été posée mais la réponse était très vague, nous dit-il. Pourriez-vous nous donner une définition scientifique du vieillissement? Alors...
Alors Brahim voit très juste, effectivement c'est un véritable défi en fait de définir le vieillissement. Sous l'angle biologique, en fait, c'est la dégradation progressive des principales, des grandes fonctions, on va dire physiologiques, hein, respiratoires, hein, cognitives, etc. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit grand-chose parce que c'est très compliqué. Il n'existe pas encore aujourd'hui de véritables biomarqueurs du vieillissement qui nous permettent de mesurer véritablement le vieillissement. Et finalement, la définition qui prévaut est celle de Benjamin Compers, qui date du XVIIIe siècle, qui est une définition au niveau de la population qui est l'augmentation de la probabilité de mort avec l'âge.
Ah oui, tout simplement. Oui, ça reste
tout simplement
très vague,
parce que du coup, ça intègre un peu tous les facteurs. Et donc, c'est vrai que des biomarqueurs sont en développement actuellement. Peut-être Jean-Marc pourra en reparler au niveau de la longueur des télomères et autres biomarqueurs de méthylation, de modification de l'ADN.
Ça part un peu loin, un peu technique. Mais les télomères, ce sont les bouts des chromosomes qui s'allongent, qui se raccourcissent au fur et à mesure de la vie. La méthylation sont des petits groupements qui s'installent sur l'ADN.
Tout à fait.
Vous dites dans votre livre 300 théories autour du vieillissement.
Tout à fait.
Ça montre, si je peux me permettre, que les scientifiques pataugent encore un petit peu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas très clair sur...
Il ne faut pas se méprendre sur l'interprétation de ces 300 théories. En fait, ces 300 théories, ce qu'elles reflètent, c'est qu'on étudie le vieillissement par de multiples approches, à de multiples niveaux, depuis la population, l'individu, les organes, les cellules, les molécules. Donc, il y a presque autant de théories que de niveaux d'études. Et pas, enfin, forcément, le, quoi qu'il en soit, le vieillissement est multifactoriel. Et probablement que c'est, toutes ces théories sont justes, en grande partie. Et finalement, le vieillissement dépend de tous ces facteurs en même temps décrits dans ces différentes théories.
Parmi les facteurs, il y en a un sur lequel vous insistez dans votre livre, c'est la restriction alimentaire. C'est-à-dire qu'on a observé que les gens qui mangent un peu moins, qui sortent de table, comme on dit sur l'île du Japon des centenaires, qui sortent de table en ayant encore faim, vivent plus longtemps. C'est aussi simple que ça ?
Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que chez l'homme, effectivement, on a rapporté sur l'île d'Okinawa que les centenaires sortaient de table sans être rassasiés, qu'ils avaient aussi pas mal d'exercices, qu'ils faisaient aussi pas mal d'exercices physiques. Il y a sûrement d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et j'insiste sur le fait que les études sur l'homme, ce sont des études corrélatives, d'accord ? On met en rapport des facteurs. C'est en aucun cas, comme en laboratoire, la preuve que ces facteurs sont liés. Si vous voulez, en laboratoire, effectivement, on peut intervenir, regarder les conséquences d'une intervention, et là, on peut définir une relation de cause à effet. Or, chez l'homme, ça reste corrélatif. Effectivement, pour revenir à votre première question, en laboratoire, sur les organismes modèles, on a montré que réduire la ration calorique, qui peut-être, c'est pas forcément la ration calorique, parfois c'est modifier la composition en nutriments de l'alimentation, permet d'allonger considérablement la durée de vie.
Mais vous dites aussi qu'on a montré l'inverse pour certains organismes. Alors concrètement, à nos auditeurs, on leur conseille de lever un peu le pied sur la fourchette, si j'ose dire.
Tout à fait. Ce dont on peut être sûr, c'est que trop manger n'est pas bon, ce qui est au niveau des risques cardiovasculaires et des maladies, des pathologies associées à l'âge.
Jean-Marc Lemaître, vos recherches sur le rajeunissement, on les évoquait il y a un instant, sur des cellules que l'on parvient à faire rajeunir, elle laisse entrevoir quelles applications pour peut-être demain la médecine du futur.
Alors, effectivement, quand on arrive à comprendre, déjà démontrer qu'on peut rajeunir une cellule, ensuite comprendre quel mécanisme se met en place sur le rajeunissement. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années au mécanisme du vieillissement. Moi, je m'intéresse un peu plus au mécanisme du rajeunissement. On sait que ça peut se mettre en place. Et donc, d'aller trouver des stratégies pour essayer de le faire sur des tissus qui sont vieillissants, bien sûr, c'est un enjeu. C'est un enjeu de médecine important. Donc, avec ces cellules reprogrammées, ces cellules souches reprogrammées, on peut redifférencier, refaire une cellule rajeunie, mais de n'importe quel type cellulaire. Donc, on sait que, par exemple, avec l'âge, on a une fonte tissulaire. On a un déficit en cellules qui apparaît dans certains tissus. C'est au niveau musculaire. Ça peut être au niveau, dans le cas du diabète, des cellules au niveau du pancréas. Donc, tout ça, on peut le reconstruire et sous une forme rajeunie. Et on peut éventuellement imaginer des essais de thérapie cellulaire pour corriger des pathologies qui sont liées à l'âge.
Donc, j'essaye de rendre un peu plus concret ce que vous dites, une personne qui a un foie défaillant, par exemple, on lui prélève une cellule de peau, on fait se dédifférencier, rajeunir cette cellule de peau pour qu'elle redevienne une cellule souche, puis on la fait se redévelopper en organe du foie, et on a un foie tout neuf, et on peut changer le foie de ce monsieur avec un foie qui a été fait à partir de ses propres cellules. Je rêve, ou c'est un peu ce qu'il y a derrière tout ça ?
Non, c'est réellement ce qu'il y a derrière tout ça. Le premier essai avec ces cellules reprogrammées qui est fait au Japon, donc par Monsieur Yamanaka, l'équipe de Monsieur Yamanaka, c'est pour corriger la DMLA. Vous savez, cette pathologie liée à l'âge où on a une perte de cellules au niveau de la rétine qui fait qu'on perd la vision. Cet essai clinique vise à reprogrammer des cellules, les redifférencier ensuite en précurseurs de la rétine et greffer à ces individus au niveau de la rétine ces cellules manquantes pour leur redonner une fonction. Mais on envisage aujourd'hui bien d'autres thérapies au niveau cardiaque, tout un ensemble de pathologies liées à l'âge où on a un déficit cellulaire. Par contre, le futur développement qui est déjà en route aux États-Unis, c'est de pouvoir recréer complètement des organes fonctionnels à taille humaine à partir de cellules issues de ces cellules reprogrammées. Les deux organes actuellement qui sont un petit peu qui pourraient être en développement et qui pour lesquels la science est déjà là, je dirais, c'est le pancréas et le rein.
Et alors, c'est à quelle échéance, quand vous nous dites on pourrait comme ça créer un peu artificiellement des organes à partir des propres cellules de notre corps, c'est pour quand ?
Par exemple, pour la souris, on fait des mini organes, hein, c'est-à-dire qu'on fait des organoïdes de foie qui sont regreffables et qui corrigent un déficit hépatique. pour l'homme, pour des organes humains fonctionnels, aujourd'hui, ce qui se fait aux États-Unis, c'est injecté dans un cochon. C'est-à-dire qu'on fait, à partir de ces cellules, on injecte dans l'embryon pour que, eh bien, les cellules fabriquent un organe humain, je vous disais, le pancréas et le rein. Et donc, pour quand, si je dis entre 5 et 10 ans, je pense que je ne vais pas me tromper.
Ouais. Florence Solari, on est en train d'imaginer l'homme en kit, on va pouvoir se réparer par petits bouts et ça nous permettrait peut-être de vivre bien au-delà des 120 ans que vous nous promettiez en début d'émission.
C'est là peut-être où nos opinions, enfin nos recherches divergent un petit peu. Je pense que
je vous sens embarrassée, Florence.
Allez. Je pense que la première motivation, en ce qui me concerne, de faire la recherche, c'est comprendre effectivement les mécanismes moléculaires et cellulaires du vieillissement pour mieux comprendre l'hétérogénéité. Pourquoi certaines personnes vieillissent sans présenter aucune des pathologies dont on peut voir que l'incidence augmente dramatiquement avec l'âge, hein, telles qu'effectivement le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives. Pourquoi certaines personnes vieillissent en étant très malades, alors que d'autres vont mourir sans développer ces pathologies. Mais l'objectif premier, je dirais, de mes recherches n'est pas de vivre éternellement et de remplacer les organes au fur et à mesure qui deviennent défectueux.
Voilà qui va peut-être donner un début de réponse à deux de nos auditeurs, Gisèle et Pierre. Gisèle vous dit, le but est-il réellement de vivre centenaire? Pourquoi faire des recherches dans ce domaine alors qu'on connaît des problèmes de surpopulation sans précédent? Et Pierre ajoute, rallonger la durée de vie ne va-t-il pas créer d'autres problèmes sociétaux?
Je rejoins complètement ces commentaires, je dirais, pour faire court.
Jean-Marc Lemaître, rapidement, en 15 secondes. Hein.
Oui, là-dessus, on est tous d'accord. Il y a une profonde injustice de par la génétique, de par le mode de vie, puisque on va vivre une longévité différente d'un individu à l'autre, et souvent et parfois en mauvaise santé. L'enjeu de la médecine, c'est bien sûr de comprendre le vieillissement, mais de trouver des stratégies pour que finalement, eh bien, on pallie à cette injustice et que tout le monde puisse vivre le plus longtemps possible, même si la limite a été fixée par les scientifiques à 120 ans pour l'instant, et bien au moins si on peut tous vivre centenaire en bonne santé, je pense qu'on aura tous fait notre travail de biologiste, de chercheur et de médecin.
Merci à vous Jean-Marc Lemaître et merci à nos amis de France Bleu Héros qui ont permis ce duplex depuis Montpellier avec Isabelle Alibert. Merci à vous Laurence Solari, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'homme qui vivra 200 ans est-il déjà né? C'est aux éditions Le Pommier. Dans un instant, la campagne officielle des élections présidentielles avec les messages des 11 candidats et après le flash de 15h, vous retrouverez Fabrice Drouel.